les disciples. Et ensuite, nous avons vu l'arrestation de Paul et de Jean, qui ont été par la suite libérés. Maintenant, ce matin, nous allons voir dans le chapitre 5, acte 5, à partir du chapitre verset 33 jusqu'au verset 41. Alors, je vais un petit peu résumer le contexte. Pierre, avec des apôtres, guérissait beaucoup à cette époque-là. Vous savez qu'il y a eu une euphorie avec le baptême de Saint-Esprit. Beaucoup étaient guéris, beaucoup se convertissaient. 5 000 personnes se convertissaient au Seigneur et qu'il y avait une grande communauté qui se créait. Il y avait beaucoup de joie et les gens malades venaient demander la guérison auprès de Pierre, auprès de ses disciples. Et donc les apôtres guérissaient beaucoup. Au point que les gens mettaient même les gens malades sur la route pour que lorsque Pierre ou ses apôtres passaient, que son ombre touche les malades et que et qu'ils soient guéris. En tout cas, beaucoup de malades sont venus auprès des disciples et ils ont été guéris. La foule louait les œuvres de Dieu réalisées par les disciples. Et puis, on voit encore apparaître les gens du Sanhédrin, c'est-à-dire les religieux, qui étaient opposés à ce que les disciples faisaient. Ils étaient même jaloux. Au lieu de louer les bienfaits, la grâce de Dieu réalisée à travers les miracles, ils étaient jaloux des disciples. Finalement, les membres du Sanhédrin décident de les emprisonner. Et de nouveau, parce qu'au chapitre 4, ils étaient emprisonnés et libérés. Mais là, encore une fois, ils décident de les emprisonner. Cependant, au chapitre 5, un ange vient les ouvrir dans la nuit et puis demande à continuer à prêcher au temple. Donc ils sortent miraculeusement de la prison pour encore de nouveau prêcher dans le temple. Pendant ce temps, les grands sacrificateurs et les siens découvrent la prison vide et ils apprennent que ses disciples qui étaient en prison sont dans le temple en train de prêcher encore une fois la résurrection de Jésus. Devant ce qui se passait, ils étaient en colère et ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent, ils interpellent ses disciples et demandent, et posent la question, pourquoi vous continuez à prêcher alors qu'on vous avait interdit? Et là, Pierre et les apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, c'était ça leur réponse. Et on arrive au chapitre 5, verset 32-3, ou jusqu'au verset 41. On peut partager cette partie en quatre parties. D'abord, la première partie, c'est le Sanhédrin veut tuer les disciples, c'est-à-dire les religieux de l'époque, voulaient vraiment absolument faire disparaître les disciples. Avant, ils étaient prêts à les emprisonner, mais maintenant, ça a été évolué, ils veulent même maintenant les tuer. Deuxième partie, c'est apparition et présentation de Gamaliel, un homme sage qui va défendre ses disciples. Et puis, à partir du verset 35-39, nous verrons la troisième partie. Ce Gamaliel, ce sage, un homme sage, va convaincre la foule et surtout les religieux de laisser partir les disciples de Jésus avec des arguments. Et versets 40 et 41, nous voyons la conclusion de cette histoire, c'est-à-dire par la libération des disciples et l'annonce de l'Évangile. Tout d'abord, nous allons voir la première partie. Pourquoi les religieux voulaient tuer les disciples? D'abord, ils étaient vraiment en colère. Pourquoi en colère? Tout simplement parce que... avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, qui sont les Sanhédrin? Enfin, les gens du Sanhédrin. Le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël qui se situait donc à Jérusalem. Il était composé de 71 sages experts et puis ils interprétaient la loi à partir des écrits, donc la Bible, mais aussi à partir des sources orales. Vous savez, les maîtres penseurs aussi laissaient certains enseignements de manière assez... orale, du coup, il était transmis de génération en génération. Donc, leur travail avait abouti donc, à la rédaction d'un livre qui s'appelle Mishnah, où il y avait justement beaucoup de grands penseurs juifs qui avaient laissé donc leur interprétation et aussi leurs commentaires à propos de la Bible. Et plus tard, ce Mishnah a permis d'écrire aussi le Talmud que nous connaissons maintenant aujourd'hui chez les Juifs. À l'époque de Jésus, donc, je vous rappelle un petit peu l'historique, hein, ou plutôt l'histoire de l'époque. Hein, l'Israël était vraiment sous la domination de l'Empire romain. Donc, ils étaient colonialisés. En général, qu'est-ce qui se passe ? Un pays colonialisé. Normalement, ils sont complètement dépendants du pays colonisateur. Oui, c'est ça. Hein. Mais à l'époque, vous savez que l'Empire romain avait l'habitude quand même de laisser une certaine liberté. Tout d'abord, ils avaient, au départ, avec leur politique, ils voulaient complètement écraser chaque pays et ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de rébellions. Et ensuite, avec le temps, ils ont appris à leur laisser quand même une certaine liberté pour que, voilà, qu'il y ait une certaine harmonie avec les pays colonisés et l'Empire romain. Et donc, ils avaient une certaine, enfin, les Juifs avaient une certaine autonomie de pouvoir, surtout accordée par les religieux. Donc, ils avaient laissé que la religion juive, le judaïsme, se prospère au sein de l'Israël. Donc, pourquoi je vous dis tout ça ? Pour dire que le pouvoir Sanhédrin était vraiment très important à cette époque, encore plus que le pouvoir politique. On peut comparer ça avec l'Iran, par exemple, d'aujourd'hui, ou encore des pays sous la charia, la loi islamique, hein, au Pakistan, etc., ou en Afghanistan, hein, où voilà, la religion prime au-dessus de la politique. Alors, pourquoi ce Sanhédrin était en colère? Tout simplement parce que les disciples enseignaient quoi? Jésus-Christ ressuscité. Hein, ils savaient très... enseigner Jésus-Christ ressuscité était vraiment pas un bon point pour les religieux, puisque c'est eux qui ont fait crucifier. Dire que ce Jésus est le Fils de Dieu et qui est mort et ressuscité, c'était vraiment quelque chose de très dangereux pour leur place. Ils n'aimaient pas donc leur enseignement, ils ne s'adhéraient pas, ils les considéraient comme des hérétiques, etc. Et puis, surtout, ils avaient déjà prévenu auparavant. Ils étaient déjà enfermés, les disciples étaient déjà enfermés par les religieux. Et puis, ils avaient même proféré même des menaces en disant de ne plus prêcher le message. Mais ils ont continué à prêcher la bonne nouvelle et ça leur a déplu. Donc, le Sanhédrin, au lieu de maintenant, avant, ils avaient emprisonné, ils avaient relâché sans rien faire. Mais là, maintenant, ils décident de les tuer pour arrêter cela. Ça rappelle un petit peu la persécution que Jésus a connue dans Marc 3. Il est dit aussi que les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Comme leur maître, les disciples aussi, ici, subit une certaine persécution. Alors, le deuxième point, à partir de versets 34 et 35, nous voyons l'apparition d'un certain Gamaliel. Je vous lis. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc il les fait sortir. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Voilà, jusqu'ici. Nous voyons apparaître un homme qui s'appelle, nommé Gamaliel. Il était, d'après ce texte, il était docteur de la loi, c'est-à-dire il connaissait parfaitement la loi. Il pouvait même très bien enseigner et interpréter la loi. Et là, on voit qu'il était même estimé de tout le peuple. C'était l'homme de la situation pour parler de la loi. Et ce n'est pas seulement dans la Bible que nous voyons apparaître ce Gamaliel, puisque lorsque nous regardons dans le livre de Mishnah, on voit apparaître aussi des écrits de Gamaliel, et même parfois, au moment de sa mort, de Gamaliel, Mishnah dit que, voilà, après sa mort, la gloire de la loi s'est éteinte. C'est pour dire que, pour les Israélites, Gamaliel était quelqu'un de très très important. Ce personnage même a été aussi nommé par l'historien juif Flavius Joseph, en disant que Gamaliel était considéré comme une haute autorité spirituelle pour tous les juifs. Et puis donc on voit bien combien Gamaliel était un maître penseur, quelqu'un qui pouvait influencer tous les juifs. Ce Gamaliel apparaît aussi plus tard dans les Actes, chapitre 22, où Paul a été arrêté, et puis c'est Paul qui argumente pour dire que je suis un Israélite, j'ai été, et puis comme vous, et là il raconte au verset 3, je suis juif, né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans une ville, dans cette ville-ci, est instruit au pied de Gamaliel. Là, il apparaît encore que Paul est en train de dire, quand j'étais Saul, j'étais élève de ce grand maître Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, pour dire que, voilà, pour que les gens donnent plus de crédit, hein, pour que les Juifs comprennent l'arrière-plan de Paul. Donc ici, on voit apparaître donc un homme qui a tout le respect du peuple. À l'époque, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, dans le monde chrétien, évangélique, qui pourrait être Gamaliel en France? Non? En général, quand on dit ça, c'est M. Blocher. Non? M. Blocher. Et je suis l'élève de M. Blocher. Pour dire que, voilà, quand on dit, voilà, j'ai été formé par M. Blocher, on donne une certaine confiance, en tout cas, pour la théologie. Alors, troisième point, ce Gamaliel donc apporte certains arguments pour dire à propos de ses disciples qui sont maintenant persécutés. Il dit, je continue la lecture au verset 36 et 37, car il y a pas longtemps que parut Judas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi à tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Voilà, il parle de deux personnages. Pourquoi il parle de deux personnages? Tout d'abord, il est en train de parler de Judas. Alors, qui était Judas? Apparemment, il était considéré comme un prophète dans le passé, et qui accomplissait même des miracles. Bon, sauf que le problème, c'est qu'il se prétendait être le Messie. Hein, vous savez, il y a eu toujours des faux Messies. Donc, on pourrait le considérer, pour aujourd'hui, comme un gourou qui se considère comme le Messie. Et auprès de ce gourou, Judas, 400 personnes le suivaient. Mais, après sa mort, ces gens qui poursuivaient Judas, ils sont tous dispersés. Ce mouvement a été disparu. Et là, il parle encore de Judas le Galiléen. On peut voir ce personnage historiquement. En l'an 6 après Jésus-Christ, il y a eu un recensement. Et on voit apparaître ce Judas le Galiléen qui n'était pas content de payer les taxes à Rome, leur colonisateur. Alors, il soulève le peuple en disant « Pourquoi il faut payer des impôts à notre persécuteur, notre envahisseur ou colonisateur ?» Alors, ils ont soulevé et du coup, Rome intervient. C'est normal. Hein, il y a eu des tumultes, donc c'est normal que Rome intervient pour le saisir. Et Rome l'écrase et après, les gens se sont dispersés par la suite. Donc là, il rappelle les deux événements en disant que si on coupe la tête, les deux mouvements on peut disparaître complètement. Donc la logique est que même s'il y a des groupes qui se créent suite à une idéologie, lorsque le leader est écrasé ou tué, le groupe se dissout. Le groupe se dissout. Et là, il continue donc son argumentation. Et maintenant, je vous le dis, de vous occuper plus de ces hommes. Donc, n'ayez rien à voir avec ces hommes-là. Et laissez-les aller, laissez-les tomber. Si cette entreprise, donc leur œuvre, ce qu'ils sont en train de faire, leur ministère, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Quelle sagesse! Et je vous rappelle que Gamaliel n'était pas un chrétien. C'était juste un juif qui vénérait Dieu et qui avait une certaine sagesse. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si ce sont les œuvres de Dieu, ce que font ces hommes-là, c'est comme si vous combattez contre Dieu. Mon sujet de prière, c'est que chacun de nous, que ce soit vous et moi, ou encore les leaders spirituels, les responsables de l'Église, puissent avoir cette sagesse, comme Gamaliel avait. Qu'on puisse avoir le regard de Dieu. Vous savez, c'est quoi la sagesse? C'est vraiment connaître le point de vue de Dieu. Avoir le regard de Dieu et que nous puissions vraiment suivre la voie du Seigneur. Parce que nous avons vu là, dans cet épisode, que les gens, les disciples du Seigneur œuvrent, mais ils étaient souvent butés à des problèmes, puisque c'est vrai que Satan travaille pour faire disparaître notre œuvre, mais heureusement le Seigneur aussi a donné une certaine sagesse à Gamaliel pour faire continuer, perdurer en tout cas le ministère des disciples. Dans mon ministère, il y a eu beaucoup des moments où beaucoup de gens voulaient faire quelque chose et je leur laissais faire, puisque pour moi aussi, parfois, voilà, je pensais que c'était l'œuvre du Seigneur. Je donne un exemple. En 2010, nous avons à Mulhouse, on avait une alliance où tous les deux mois, on se réunissait pour parler de certaines choses, et on se disait ce serait bien de réunir notre force pour réaliser quelque chose. C'est vrai que dans notre église, le Fastat, on organisait une certaine vie dans la ville que vous connaissez ici. Hein. Moi j'ai créé ce genre de choses à notre ancienne église, exactement avec la même formule, c'est-à-dire un grand barbecue, un grand concert, un grand kermesse pour les enfants avec des ballons gonflables. Et il y avait à peu près 300 personnes qui venaient à l'intérieur de l'église, dans la cour de l'église, pour cette cas. Donc on faisait pas mal de choses pour les gens de la ville, de notre ville. Et puis d'autres églises faisaient aussi des actions de quartier, où ils œuvraient aussi auprès des enfants, comme Respérance, etc. Et on s'est dit, ce serait bien de rassembler tout ça, et aussi travailler tous ensemble pour faire quelque chose, pour faire bouger la ville. Et c'est comme ça que l'idée a été créée, « Bouge ta ville ». Et on s'est dit, au lieu de faire ça chacun dans son côté, on va faire ça pendant une semaine, tous ensemble, pour faire bouger cette région de Mulhouse, Mulhouse et environ. Cependant, dans cette réunion entre les pasteurs, il y a eu des gens qui disaient, ah non, il ne faut pas le faire ça. Pourquoi? Parce que il y a quand même aussi cette église charismatique qui réunit 2000 personnes et qu'ils vont tout diriger et faire à leur façon et nous, on ne veut pas. J'ai dit, écoutez, peut-être que Quand l'église est grande, il peut y avoir des dérapages, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter l'œuvre du Seigneur. Et nous avons vraiment beaucoup prié, malgré les réticences, et finalement nous avons pu trouver le consensus pour créer Boustaville. Hein? En disant que ce n'est pas Portes Ouvertes chrétiennes qui va animer cette réunion, mais JPC. On a trouvé donc une association neutre qui a permis en tout cas d'organiser cette... Et on s'est dit que, voilà, il ne faut pas arrêter le projet de Dieu. Et finalement, nous sommes réjouis de voir tellement de personnes qui sont revenues au Christ à travers cet événement, etc. Oui, Gamaliel était comme ça. Gamaliel a vu que ça aurait pu être une œuvre conduite par le Seigneur et il a laissé faire. Il a eu l'intelligence en tout cas. Et ce qui était étonnant, c'est que Gamaliel était un pharisien, c'est-à-dire qu'il croit à la résurrection. Alors que les Sadducéens, qui étaient souvent la majorité du Sanhédrin, étaient des Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Mais malgré tout, ils étaient à l'écoute de Gamaliel parce qu'il était tellement un grand homme pour tous les Juifs et même pour tous les Sadducéens. Je vais conclure. Voilà le quatrième point. Bah, la conclusion, c'est qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Versets 40 et 41 que je vais vous lire. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Je vous avais dit qu'ils ont été emprisonnés, libérés dans le chapitre 4, mais sans être frappés. Mais là, l'intensité de la persécution augmente. Ils les libèrent. Enfin, ce serait bien super qu'à travers la sagesse de Gamaliel, bah, qu'il y ait une route aplanie de sentiers et avec des pétales roses pour pouvoir marcher, quoi. Non, pas du tout. La vie ne se passe pas comme ça. Il y a toujours des épreuves. Regardez un petit peu les disciples. Lorsque Jésus-Christ leur demande d'aller traverser le lac, ben, ils obéissent à Jésus, ils se mettent dans la barque, et puis qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils rencontrent? Les tempêtes. C'est pas parce que nous pouvons marcher sur le bon chemin, mais rencontrer aussi des épreuves, comme ici. Oui, le Seigneur a aplani le sentier, mais en sortant encore, ils se font battre de verges, donc des épreuves. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Donc, ils leur menacent encore. Et voilà, ça devait être vraiment très douloureux, même parfois, voilà, avec beaucoup de, on aurait pu recevoir ça avec beaucoup de crainte, mais comment ils se comportent, les apôtres? Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont donc, voilà, malgré la persécution, ils n'ont pas été découragés. Même au contraire, ils étaient heureux de servir le Seigneur pleinement. 42. Et chaque fois, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez? Malgré les menaces, malgré l'emprisonnement, malgré les coups de verge, ils n'ont pas abandonné d'annoncer la parole de Dieu. Le temple, vous savez, le temple était l'endroit le plus grand, donc ils venaient chaque jour dans le temple, l'endroit le plus spacieux, où beaucoup de gens se retrouvaient là-bas. Et donc, ils se retrouvaient là-bas tous les jours pour prêcher la parole, mais aussi dans les maisons. Ils n'ont cessé d'enseigner que Jésus-Christ, le Sauveur, le ressuscité. J'aimerais terminer par le message qu'ils ont prêché. On voit ça dans chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. » Oui, ce Jésus que vous avez sacrifié est le prince et le sauveur, le Fils de Dieu et le sauveur. Pour donner à l'Israël la repentance et le pardon des péchés. Il nous a pardonnés à travers son sacrifice. Jésus est notre maître, notre Seigneur. Nous sommes, ils sont en train de dire, nous sommes témoins de ces choses. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vécu avec le Christ. Nous avons expérimenté. Ils sont en train de confesser leur foi. Leur confession était vraiment authentique, vraie, qui correspond aussi à leur foi vivante, leur foi authentique. Que nous puissions chaque jour aussi prononcer cette confession de foi, cette foi vivante, peut-être aussi annoncée de manière intelligente, avec des paroles à propos, selon les circonstances, pour que chacun puisse entendre cette bonne nouvelle et venir auprès du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et je vous invite à la prière. Seigneur, merci encore pour cet enseignement dans les Actes où tu as pu aussi réaliser des miracles. Oui, tu as vraiment été présent auprès des disciples pour qu'ils puissent aussi proclamer ton évangile, mais aussi, Seigneur, apporter la grâce, la bienveillance auprès de tes enfants, Seigneur. Oui, il y a eu beaucoup de conversions, nous voulons te remercier. Pourtant, cependant, Seigneur, lorsque nous œuvrons pour toi, nous pouvons rencontrer des obstacles, des persécutions, des épreuves. Mais ces disciples n'ont pas abandonné. Et d'ailleurs, tu as même mis une personne de sage, Gamaliel, pour qu'il soit libéré. Seigneur, oui, Seigneur, que cette sagesse que tu leur as accordée puisse aussi accorder à nous tous pour voir ton point de vue, pour voir, Seigneur, ton projet, le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, pour notre Église, Seigneur. Et que nous décourageons pas, mais que nous puissions persévérer dans la foi pour ta gloire seule, Seigneur. Merci encore pour ce que les disciples ont pu montrer comme exemple, comme témoignage aussi, à travers aussi leur confession abondante, à travers leur foi vivante. Oui, Seigneur, nous te louons pour tes bienfaits et accompagne-nous sur notre chemin de route. Nous te louons pour tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen.